Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Academy. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, c'est l'avantage d'Internet, puisque 40% d'entre vous nous écoutez de l'étranger, ou du moins hors de l'hexagone français. Tous ces endroits du monde vont justement constituer le thème de la chronique régulière de mon invité, Jean-Robert Pitt, qui est géographe. Mais la géographie a-t-elle encore aujourd'hui une pertinence, une existence? Est-elle utile, importante pour comprendre le monde? Ce sont toutes ces questions que je me propose de lui poser. Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Et merci. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté non seulement cette émission, mais aussi de tenir une chronique régulière sur Canal Academy pour nous parler de géographie. Et nul mieux que vous ne peut aborder la géographie, puisque vous êtes non seulement géographe, évidemment, mais un grand professeur de géographie. Vous avez enseigné à l'université Paris 4, université dont vous êtes devenu en 2003 le président. Et depuis 2006, vous êtes président de l'université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler.
On pourra en parler.
Alors, je voudrais ajouter qu'en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous avez été élu le 3 mars 2008. Vous siégez évidemment dans la section Histoire et géographie, aux côtés de vos confrères que nos auditeurs connaissent bien, Pierre Chaunu, Emmanuel Leroy-Ladurie, Claude Dulon-Saint-Denis, Jacques Dupaquet, Jean Tullard et François Dorcival. Et vous avez succédé à un très grand géographe, Pierre Georges. Canal Académie a consacré une émission à Pierre Georges grâce justement à un autre géographe, Jean Bastier, président d'honneur de la Société de géographie. Et vous-même, vous êtes maintenant le président de cette Société de géographie.
Voilà, depuis le 1er janvier de cette année.
Voilà, donc vous cumulez plusieurs présidences, mais le cumul des mandats n'est pas interdit dans ce domaine, je crois. Pardonnez-moi ce préambule un petit peu long avant de vous donner la parole. Et donc, pour vous poser cette première question, la géographie existe-t-elle encore? Est-ce une discipline pour comprendre le monde aujourd'hui, une discipline pertinente?
Alors, merci de me poser cette question et de me donner cette tribune. Je ne vous étonnerai pas en vous répondant tout de suite oui, bien sûr.
J'espère
la géographie
bien.
est une discipline pertinente et j'irai même beaucoup plus loin. Je pense que la géographie est une discipline absolument indispensable au monde contemporain, que sans savoir géographique, le monde va à la catastrophe. Donc si vous me laissez un petit moment pour essayer de vous l'expliquer, je vais le faire avec un très grand plaisir. Et je vous propose pour ça de remonter au 19e siècle et à un ancien ministre de l'instruction publique, Jules Ferry, qui prend en main les destinées du ministère qui s'appelle l'instruction publique, mais lui-même parle d'éducation nationale, avec toutes les ambiguïtés de cette expression, au cours de deux brèves périodes. Ça n'a pas été un ministre qui a duré très longtemps, entre 1879 et 1982. Et comme vous le savez, Jules Ferry souhaite fonder la construction de la nation française sur l'apprentissage de quelques savoirs fondamentaux, communs à tous les jeunes Français, de quelque origine géographique ou sociale qu'ils soient. Et parmi ces savoirs fondamentaux, il y a bien sûr la langue parlée et écrite. Il ne faut pas oublier que beaucoup de Français, de jeunes Français, ne parlent pas le français à l'époque, en particulier dans les provinces périphériques, Bretagne, Pays Basque, Alsace, etc. D'ailleurs, l'Alsace n'est pas française à ce moment-là, mais enfin, d'autres régions de France ne parlent pas le français. Mais aussi, il y a l'histoire et la géographie qui tiennent une place de choix dans ces savoirs fondamentaux. Il y a bien sûr aussi le calcul. Parce que pour lui, c'est le moyen de fonder la nation. Donc permettez-moi de définir un petit peu à ma façon ce qu'est une nation. C'est un peuple, une société, qui partage un certain nombre de valeurs, une langue, des institutions, des valeurs philosophiques et politiques communes, un passé assumé, une histoire, et un espace identifié et reconnu. Et c'est précisément cet aspect-là de la réalité d'une nation qu'étudie la géographie. Et si ce concept de nation, ne parlons même pas de patrie, qui est un mot aujourd'hui fort démodé, hélas, pour moi, a perdu beaucoup de sa séduction ces dernières décennies, je ne crois pas que ce soit à cause des dérives nationalistes qui sont devenues finalement assez minoritaires en France et en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des dérives grave, gravissime au XXe siècle. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent nationalistes et qui professent des idées nationalistes sont devenus minoritaires presque partout, et tant mieux. Je crois qu'il faut plutôt... Pourquoi est-ce que le concept de nation est un peu en décadence, en péril, ou en tout cas mal compris aujourd'hui? Je crois qu'il faut invoquer la montée de l'individualisme incontestable, la perte du respect d'autrui, qu'on ne peut pas nier, du sens des devoirs et des droits, parce qu'on parle beaucoup des droits, toutes sortes de droits, mais pas assez des devoirs. Et tout cela induit une incompréhension de ce qu'il faudrait appeler, de ce qu'on doit appeler le civisme. On parle d'incivilité, mais le civisme, c'est quelque chose d'essentiel qu'on doit apprendre aux enfants le plus tôt possible, dès la famille et bien sûr à l'école. Et sans aucun doute, pour moi, le déclin du concept de nation doit être incriminé, doit être aussi lié à l'insuffisance de culture juridique, politique, historique et géographique des Français, mais aussi de beaucoup d'Européens et malheureusement de beaucoup d'habitants de la planète aujourd'hui.
Alors on disait autrefois, je m'en souviens, que justement les Français étaient nuls en géographie.
Oui,
est-ce toujours vrai ?
Voilà. On dit la boutade, c'est que le Français est un monsieur décoré qui a des parents à la campagne et qui ignore la géographie. Bon, malheureusement, ça colle de mieux en mieux à la réalité pour la dernière partie de cette assertion. Malgré la facilité d'accéder aujourd'hui à une information fiable, vivante, sur les moindres recoins de la planète. Aujourd'hui, ignorer la géographie, ou du moins penser qu'on n'a pas accès au savoir géographique, c'est invraisemblable, parce qu'il est disponible partout, facilement, gratuitement, et de la manière la plus vivante possible. C'est peut-être d'ailleurs ce raz-de-marée d'images, de faits disponibles dans les divers médias, qui ôte tout désir d'apprendre et de comprendre, en particulier chez les jeunes.
Vous croyez que les jeunes n'ont plus de désir d'apprendre la géographie, les autres pays,
Je me demande s'ils baignent tellement dans de l'information géographique...
Sans s'en rendre compte,
sans savoir que c'est de la géographie, que finalement, lorsqu'ils entendent un professeur qui n'a pas toujours les moyens audiovisuels nécessaires pour être aussi performant qu'une chaîne de télévision, ça les ennuie un tout petit peu, surtout qu'il faut prendre des notes, il faut ensuite apprendre un certain nombre de choses. Donc, on en viendrait presque à regretter le temps où l'on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures par cœur. On apprenait aussi nos parents,
la longueur des fleuves,
oui. La superficie des pays. C'était le temps aussi, et moi j'ai vécu ça lorsque j'étais petit, où les atlas étaient rares. Je crois qu'il n'y avait pas d'atlas à la maison lorsque j'étais petit. En tout cas, ils étaient même de contenu assez rudimentaire, avec des grandes plages roses, jaunes, vertes, mais ça n'allait pas très très loin, où l'on rêvait en feuilletant les pages du dictionnaire, ça je l'ai fait, un dictionnaire Larousse, et puis, ou de l'illustration.
C'est ça qui vous a déclenché la vocation de géographe?
Oui, on pourrait en parler, ma vocation de géographe est compliquée, mais en tout cas, ça a participé sûrement d'une manière ou d'une autre. Et puis il y avait en plus les lectures amusantes qui les complétaient, et il faut bien citer le Tour de France par deux enfants, qui a joué un rôle tellement, tellement important, et dont je considère qu'il a été une sorte de passage obligé, de délicieux passage obligé de la formation à la géographie de plusieurs générations de Français entre la 3e et la 4e République, voire le début de la 5e. Alors n'oublions pas non plus que le changement dans notre pays remonte aux années 60 et que cette plus grande facilité à trouver des supports géographiques a finalement tué les supports de rêve qui étaient le dictionnaire, les atlas et les magazines illustrés, les premiers magazines illustrés, donc l'Illustration, Paris Match et quelques autres pour en ce qui concerne la France. Et ça remonte aux années 60, c'est-à-dire à la généralisation de la télévision. Beaucoup de familles encore au début des années 60 n'avaient pas la télévision.
Absolument.
À la maison. C'était un produit de luxe et les publications en couleur sont finalement relativement récentes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est devenu un peu plus difficile aux professeurs d'histoire et de géographie, ils le sont ensemble, ils enseignent l'histoire et la géographie, de faire palpiter leurs auditoires d'écoliers, de collégiens, de lycéens. Il y a une telle inflation d'informations disponibles que cela donne l'impression à beaucoup de jeunes qui savent déjà tout avant le cours. Mais ça n'est qu'une impression, c'est ça le problème.
Oui.
Il n'en est rien. Cette impression est très, très fausse, parce que leurs ignorances et les confusions qu'ils commettent sont souvent accablantes. Nous nous en rendons compte à l'université lorsque nous pratiquons des tests vis-à-vis des étudiants en première année.
Il y a des lacunes.
Il y a beaucoup de lacunes et qui sont...
Et pourtant, c'est passionnant, la géographie. Enfin, c'est pas
oui.
à vous, évidemment, vous n'allez
oui,
pas
oui,
dire
oui,
le contraire.
Oui,
mais
c'est ce que je crois. C'est passionnant, à condition que ce savoir géographique soit hiérarchisé, qu'on fasse la part des choses entre... Bon, c'est vrai que c'est peut-être plus nécessaire d'apprendre aujourd'hui les sous-préfectures, encore que pourquoi pas, ça forme à la mémoire. Mais un savoir géographique hiérarchisé, où on sait on a des idées fermes et fondées sur un certain nombre de sujets, un savoir assimilé peut être absolument passionnant. Et moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ce savoir est indispensable à l'honnête homme du XXIe siècle, si celui-ci ne veut pas subir la mondialisation comme une malédiction. Et ça, malheureusement, en France, on en est là. La mondialisation est un mot qui s'est devenu presque un gros mot.
C'est un peu négatif. Vérité, il y a des aspects
alors que
positifs.
C'est comme l'argent. Je compare assez volontiers la mondialisation à l'argent. Ça n'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Mm-hmm. Donc la mondialisation, elle n'a pas de valeur en elle-même. Ce que je crois, c'est qu'elle est inéluctable. C'est que nous sommes tous, y compris les habitants des pays les plus pauvres et les plus isolés, nous sommes dans la mondialisation. Donc ce qu'il faut, c'est trouver les moyens d'en tirer le meilleur parti pour soi-même, pour l'humanité entière, pour l'environnement des hommes à la surface de la Terre, parce que la géographie, c'est la science qui permet, j'aime beaucoup cette expression, de mieux habiter la planète. L'humanité est l'espèce vivante, la plus présente à la surface de la Terre, 6,5 milliards de... Bon, il y a des espèces microscopiques ou même de taille moyenne qui sont plus nombreuses, mais pas avec l'intelligence de l'humanité. La planète nous appartient d'une certaine manière et je ne crois pas tenir des propos scandaleux en disant cela. Je crois que réellement l'humanité a des droits sur la planète.
Elle en est responsable, c'est sûr.
Elle en est responsable. Et la géographie, c'est la science qui permet de mieux habiter cette planète, de mieux en partager les richesses, de mieux vivre ensemble dans la diversité des cultures, qui sont des cultures qui doivent être comprises et partagées. Parce qu'une culture n'est pas un monde clos, ce n'est pas une prison. Tout ça permet d'être meilleur citoyen. Je crois que la géographie, c'est l'antidote de ces concepts très à la mode qui nous sont venus d'outre-Atlantique, de certains. Je ne crois pas que ce soit l'opinion majoritaire outre-Atlantique qui s'appelle « choc des civilisations »,« fin de l'histoire », toutes ces peurs millénaristes, si elle va nous tomber sur la tête demain, qui rencontrent tant de succès aujourd'hui et qui touchent à toutes sortes de problèmes comme le climat, la pollution, la démographie, l'alimentation. On va mourir de faim demain, alors que nous sommes 6 milliards et demi et que nous étions il y a 40 ans 3 milliards. Et là, on mourait de faim à 3 milliards. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, mais pour des raisons politiques.
Un peu trop, tout de même.
Pour des raisons largement politiques.
Et pas du tout parce que la Terre
ne peut pas les nourrir. Et ces questions religieuses aussi qui font tellement peur, comme si les religions étaient en elles-mêmes des facteurs de guerre, des facteurs d'enfermement, des facteurs de trouble, ce qui n'est pas le cas. La religion, c'est pareil, ça dépend ce qu'on en fait. Et on peut l'instrumentaliser à des fins très fâcheuses. Il y a beaucoup de travaux de géographes sur ces questions. Donc, il y a un mot que j'ai envie de prononcer. La géographie apprend le sens des responsabilités. Celui qui a du savoir géographique est plus responsable vis-à-vis de son environnement d'abord, et vis-à-vis de l'environnement en général. Mais pour moi, l'environnement, c'est l'environnement des hommes. L'environnement tout court est un mot qu'on devrait bannir du vocabulaire.
Ah oui.
Oui, parce que l'environnement, c'est comme la nature. C'est quoi la nature ?
Oui, c'est la même
chose.
Sauf,
pour moi, la nature, c'est l'ensemble des processus biologiques et biotique aussi, qui existe à la surface de la Terre, et l'homme en fait partie. Mm-hmm. Si on met l'homme dans la nature, ça ne me gêne pas d'utiliser le mot nature. Mais la nature sans les hommes, les cailloux, les petites plantes, les rivières, les animaux, ça me gêne beaucoup s'il n'y a pas les hommes. Parce que comme si nous étions extérieurs à tout cela et que nous devions respecter comme un veau d'or cette nature auquel on met souvent un grand N aujourd'hui. Moi, personnellement, en tant que géographe, ça me gêne et je crois que la plupart de mes collègues géographes partage ce même point de vue. Donc la géographie apprend le sens des responsabilités vis-à-vis de l'environnement, plutôt que la peur ou un respect, je dirais, pseudo-mystique de tous les processus qui le régissent. Et plus on est scientifique, plus on est savant sur le fonctionnement de cet environnement, moins on est en adoration, on est en admiration, certainement. On peut être en admiration devant l'extraordinaire spectacle des processus biologiques et minéraux, mais certainement pas en adoration. Et la géographie permet de comprendre aussi la multiplicité des associations possibles entre le génie des hommes et toutes les différentes composantes de son environnement, que sont l'air, l'eau, les sols, les végétaux, les animaux, les micro-organismes. Il faut pas les oublier, jusqu'au plus grand des organismes vivants. Et ce que je crois profondément, comme pratiquement tous mes collègues géographes, c'est qu'il n'y a pas de droit propre de la nature. Luc Ferry l'avait très bien montré dans un livre d'il y a une vingtaine d'années qui s'appelait « Le nouvel ordre écologique » qui était très, très sévère contre ces idéologies visant à pratiquement diviniser la nature et qui sont extrêmement dangereuses. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un droit des animaux à l'époque nazie, que les nazis avaient imaginé un droit des animaux. Ça fait froid dans le dos quand on sait de quelle manière ils traitaient les droits de l'homme. Donc la géographie permet au contraire de donner une légitimité à l'action de l'homme sur la Terre et en même temps à l'inviter à tirer intelligemment parti de son environnement, parce que on sait très bien que certaines des actions peuvent nuire à cet environnement et par conséquent se retourner contre l'humanité. Et ce sont celles-ci qui sont mauvaises. Il faut être très attentif à cela. La géographie apprend aussi à maîtriser deux concepts très modernes, contemporains, qui sont la mondialisation, donc ce qu'on pourrait appeler le mondial et le local, qui sont pour moi complémentaires. On ne doit pas les opposer. Le mondial et le local vont ensemble.
Ça donne des perspectives, en fait. C'est une discipline qui ouvre
des
perspectives.
Je crois que nous sommes ancrés, dans un lieu. Nous sommes ancrés dans des lieux, dans des espaces qui ont une superficie. Il y a des frontières et puis parfois il n'y en a pas. Et il y en a de moins en moins. Sauf pour certains, hélas.
Il y en a qui posent beaucoup
de problèmes. Mais ça, on pourra revenir peut-être un jour sur ces questions de frontières qui sont un des objets les plus passionnants de la géographie. Brodel avait inventé une expression, vous vous souvenez, qui est l'économie monde. Mais pas cette expression qui vient de certaines tendances des sciences humaines qui s'appelle le système monde. Pour moi, c'est une construction intellectuelle qu'il vaudrait mieux laisser aux doctrines totalitaires, parce que aucun système social, politique, paysager n'est réellement universel, ou en tout cas quand certains ont tenté d'imaginer des systèmes de ce genre universel, ça n'a pas duré, et tant mieux. Les civilisations, d'une certaine manière, sont mortelles, il faut bien l'admettre, Malraux l'avait dit, mais il faut être persuadé de cela, et celles qui prétendaient durer 1000 ans se sont souvent effondrées, faute d'avoir respecté, non pas l'environnement, faute d'avoir respecté les hommes réels dans leur profonde et intrinsèque diversité. La biodiversité, dont on parle beaucoup, et à laquelle je crois énormément, est tout à fait nécessaire. Mais elle concerne autant pour moi les sociétés humaines que les plantes et les animaux.
C'est plutôt la diversité humaine, enfin sociale, qui est en danger.
Pour moi, tout ça va ensemble. Il n'y a pas de raison, de vanter la biodiversité végétale ou animale, que j'approuve énormément et qui est nécessaire, je pense, à l'équilibre planétaire, mais en excluant la diversité des sociétés et des cultures, qui sont l'expression même de ces sociétés. Donc, je crois qu'il faut, au contraire, imaginer que cette biodiversité culturelle, elle est nécessaire à condition que les sociétés elles-mêmes soient dans une perspective de modus vivendi. Comment faire pour exprimer nos idéaux culturels, pour les vivre profondément, tout en étant dans une perspective d'échange, d'acceptation de l'autre, également de démarche vers l'autre pour discuter d'un certain nombre de problèmes. Et je pense que c'est dans cet échange que l'humanité s'enrichit. On le voit bien, moi, il se trouve, vous le savez peut-être, je m'intéresse beaucoup à la cuisine et je suis admiratif de voir comment toutes les cuisines du monde, toujours, se sont constamment enrichies au contact de produits venant d'ailleurs ou de recettes venant d'ailleurs, et en même temps ont exporté leur savoir-faire et leurs rêves. Et ça, c'est une petite expression de la culture, mais qui fait très plaisir.
Et qui n'est vivante que
quand elle est dans cette démarche d'échange. Ça aussi, on pourra en reparler. Donc moi, une expression qui me rend très triste, au fond, qui appartient au langage politiquement correct à la mode, c'est le droit à la différence. Donc je préfère de beaucoup, si vous me permettez, proposer à nos auditeurs de remplacer cette expression par le devoir de différences partagées. Soyons nous-mêmes, exprimons notre personnalité, nos idéaux, nos valeurs, mais dans une idée de partage, dans une démarche de partage. Alors, prenons un ou deux exemples, je ne veux pas être trop long, mais prenons l'exemple de l'économie. L'économie fournit une très bonne application de ces principes, surtout dans la période de crise dans laquelle nous vivons actuellement. Je suis à peu près certain que demain, les circuits courts de commercialisation des biens et des services seront autant utilisés que les circuits longs. Le privilège accordé à ces derniers, c'est-à-dire aux circuits longs, par les économistes et par un certain nombre d'organismes de l'ère industrielle qui s'achève, ces circuits longs ont laissé trop de peuples au bord du chemin, créé trop d'inégalités. Je trouve que ça n'est ni moral, ni sain pour l'équilibre planétaire.
Non,
pour
moi, un jour, ça nous reviendra forcément en retour.
Mais bien sûr, parce que si nous avons des gens trop pauvres par rapport à des gens trop riches, un jour ou l'autre, ça explose. Encore une fois, je ne veux pas faire de morale à ce sujet-là. Je pense que c'est nuisible pour tout le monde. Bien entendu, plus pour les pauvres que pour les riches. Mais un jour ou l'autre, ça se retourne contre les riches. Donc ce n'est pas la peine. Autant essayer d'imaginer des solutions. Et pour moi, la concurrence Et d'autant plus sauvage que les produits sont standardisés. Quand je dis les produits, c'est aussi bien les biens matériels que les services. Si on s'oriente vers des produits qui ressemblent à leurs producteurs et à leur environnement, c'est le meilleur moyen de satisfaire tous les consommateurs, les proches, mais aussi les consommateurs lointains qui peuvent être séduits par l'originalité et la qualité du produit. L'alimentation, encore une fois, ou le tourisme fournissent de très très bons exemples. À quoi bon aller passer ses vacances à 15 heures d'avion de Paris si c'est pour trouver exactement le même type d'hôtel, le même type de paysage, bien le même sûr. Type de nourriture, le même type de Le même anglais médiocre qu'on parle dans tous les hôtels du monde. Quand on voyage pour son plaisir, on veut être surpris, on veut être étonné, on veut trouver du plaisir justement dans la rencontre de l'autre, de l'ailleurs, de ce qui n'est pas nous-mêmes et de ce qui n'est pas notre environnement. Donc de même que la géographie appuyée sur l'histoire enseigne qu'il est illusoire de rêver de résorber de force les inégalités entre les sociétés, je crois qu'il est illusoire de penser qu'il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres, ce qui est une idée très très répandue, en particulier chez nos jeunes.
Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps.
Et pas seulement chez les jeunes, dans aussi un certain nombre de partis politiques, mais je ne veux pas ici me lancer dans un débat trop audacieux. Donc je crois que les échanges sont possibles, qu'ils concernent aussi bien les biens matériels, les services, que les idées et que les rêves, qu'aujourd'hui on parle moins de rapport nord-sud ou de rapport est-ouest, c'est dépassé parce que dans les rapports nord-sud, on pensait à la Chine ou à l'Inde qui sont des pays en plein développement. Est-ouest, le mur de Berlin est tombé. Je crois qu'il importe aujourd'hui de susciter des institutions politiques et économiques permettant à chacun, personnellement ou en société, de se prendre en charge. C'est ça le sens des responsabilités, de donner le meilleur de lui-même, où qu'il soit. Et pour le géographe, c'est ça le meilleur sens de la justice. Et il n'y a pas d'autre justice, pas d'autre droit, ni devoir de l'homme à rechercher. Donc, pour conclure, si vous me permettez, je dirais que la géographie n'a de légitimité en tant que discipline scientifique et d'apprentissage pour les jeunes que si elle est au service de la cité, avec un grand C. Il ne faut pas oublier, pour le dire en grec, de la police. La politique, c'est la gestion de la cité et la géographie est pleinement une discipline au service de la politique. C'est les curiosités de la géographie, sa faculté d'émerveillement. Et je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que je continue à m'émerveiller partout où je vais, en regardant des paysages que je ne connais pas, en rencontrant des gens que je ne connais pas. Je m'émerveille toujours de cette diversité extraordinaire de la planète. La géographie est sensible, très sensible à l'infinie diversité du monde, de la planète. Elle véhicule un message également d'optimisme raisonnable. Et c'est ce qui fait qu'elle est indispensable à toute culture générale et à toute action. Je dirais aussi, pour vraiment terminer, qu'elle est apte à soutenir les philosophies, les œuvres politiques, qu'elle aide à fixer des buts, à atteindre des valeurs, des idéaux, et en partant des hommes tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient, ce qui est la voie du totalitarisme. Pour moi, savoir géographique et zèle citoyen ont un magnifique avenir devant eux. Donc, jeunes qui nous écoutez, faites de la géographie et vous en éprouverez un immense plaisir.
Justement, y en a-t-il beaucoup qui s'engagent dans cette voie ? C'est une discipline à l'université.
Elle a failli disparaître à plusieurs reprises à l'université. Il y a eu des ministères, je ne vais pas citer les ministres, d'autant qu'il y en a qui sont membres de l'Institut, qui ont essayé de la faire disparaître parce qu'ils avaient mal compris son message. Je crois qu'aujourd'hui, elle attire de plus en plus de jeunes parce que nous avons su aussi, dans les universités françaises, trouver des débouchés pour nos étudiants du côté de la gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et que ça, c'est formidable parce qu'il y a tellement de disciplines relevant des sciences humaines qui malheureusement, conduisent au chômage.
Oui, c'est sûr. Merci Jean-Robert Pitt pour cet éloge de la géographie, car disons-le, c'était un éloge,
oui,
mais c'était votre rôle de le remplir.
C'était mon rôle.
Alors, on vous en remercie infiniment. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous pour une prochaine chronique avec un autre thème que vous laissera à votre choix
plaisir.
Et on vous écoutera avec grand plaisir. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.